Alors maintenant, on va passer de 754 à 833. Pourquoi j'ai choisi 833? Pardon. Tout simplement parce que là, il va y avoir un événement très très important. Ça, c'est la fin du règne d'un empereur, d'un calife. Ça, c'est le début du règne d'un calife, qui est Al-Mansour, le premier fondateur de la dynastie abbasside, enfin le premier calife de la dynastie abbasside. Et là, c'est le quatrième. Alors, entre le premier et le quatrième, il y a eu toute une période, vous voyez, donc deux tiers d'un siècle, hein, plus, où il va y avoir des phénomènes très importants qui sont phénomènes de traduction d'ouvrages du grec à l'arabe, du grec au syriaque, du syriaque à l'arabe, du sanskrit à l'arabe, du persan à l'arabe. Donc vous voyez essentiellement d'une autre langue vers l'arabe. Sauf du grec au syriaque qui est une période de transition parce que beaucoup d'élites de ce nouveau pouvoir connaissaient le syriaque, parlaient le syriaque, et le syriaque était une langue théologique pour les arabes chrétiens. Donc période de traduction. Période aussi de fondation de nouvelles villes. Fondation de la grande capitale de l'Empire, Bagdad. Donc fondation aussi, création d'un phénomène sociologique qui est le développement de villes moyennes qui vont attirer, qui vont provoquer ce qu'on appelle aujourd'hui l'exode. Exode rural qui va ensuite créer de nouvelles couches sociales, différentes couches sociales, et qui vont caractériser la société des villes. Et qui vont même donner aux villes une importance telle que toute l'histoire de cette civilisation est réduite malheureusement à 98% à l'histoire des villes, mais pas à l'histoire des campagnes. Parce que cette histoire va être écrite dans les villes et il n'y a même pas de campagnes intermédiaires où, par exemple, des latifondières, comme on dirait, ou des féodaux bien, écriraient leur histoire, comme ça s'est trouvé en Europe aussi. Bien. Par exemple, l'Église écrit l'histoire des féodaux, etc. Là, non. L'histoire du monde musulman est une histoire de citadins. Si vous oubliez ça, vous oubliez aussi des éléments très importants pour comprendre ce phénomène. Et donc, du coup, ceux qui écrivent sur la ville, bon, connaissent bien la ville, mais ceux qui écrivent qui habitent les villes, qui écrivent sur la campagne, ne sont pas objectifs. Il faut le savoir. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette période-là ? Bien, il y a, contrairement à ce qu'on croit, ou à ce qu'on nous a dit pendant longtemps, les gens ne vont pas se précipiter sur les ouvrages grecs de la science pour les traduire. Ça, c'est le mythe qui a été construit par les orientalistes. En fait, non, les gens vont se comporter normalement, ils vont faire ce dont ils avaient besoin d'abord. Or, ils avaient besoin d'abord d'enseigner la langue du nouveau pouvoir pour pouvoir contrôler cet immense pouvoir. Or, ce pouvoir contrôlait des populations à 80% non-arabes. Qu'est-ce que je raconte ? À 90% non-arabes. De Saragosse jusqu'à Samarcande. Donc, il fallait que ce soit de nouveaux sujets, de nouveaux citoyens. Et pourquoi pas, si c'était possible, de bons musulmans. Mais ça va être problématique. Mais ce n'est pas grave. Au moins qu'ils soient insérés dans la culture dominante, qui va être la culture en arabe dominante, la culture de pouvoir, qui ne va pas réussir d'ailleurs à détruire les autres cultures. Impossible, jusqu'à aujourd'hui. Et donc, études sur la langue arabe. Grammaire, c'est une discipline qui n'existait pas à l'époque du prophète. Linguistique, ça n'existait pas. Toutes ces sciences, on les appelle des sciences, liées à la langue, grammaire, lexicographie, linguistique, morphologie, prosodie, métrique de la poésie arabe, ça n'existait pas. Qu'est-ce qui existait ? Il existait la langue arabe. Et la langue arabe, considérée comme une merveille de l'humanité, la plus belle langue forcément, parce que c'est les Arabes qui le disent, la plus belle langue, la plus belle poésie forcément, et donc les gens se contentaient de ça. Mais quand ils ont eu à gouverner un empire où les gens n'ont jamais entendu parler de l'arabe, il fallait bien leur donner des techniques, des procédés, pour qu'ils puissent être arabophones. Mais ces gens-là, à 90% étrangers, n'avaient pas le privilège des Arabes qui apprenaient l'arabe, comme Obélix, qui est devenu puissant en avalant tout petit la potion magique. Les Arabes apprenaient l'arabe avec leur maman, et les autres, comment ils faisaient ? Donc c'est par nécessité de gestion d'un immense empire monde, par nécessité d'intégrer les étrangers, comme on dit, les non-arabes, que, paradoxalement, hein, donc c'est pas par volonté morale ou par amour de la langue arabe que les Arabes vont développer la langue arabe. D'ailleurs, nous savons aujourd'hui que la majorité de ceux qui vont développer tous ces chapitres de la langue arabe sont justement des non-arabes. Et parmi ceux qui étaient les plus grands spécialistes de la grammaire, il y en a un qui est connu. Quand vous donnez son nom dans une réception, ça fait chic. Et puis vous verrez, à ce moment-là, vous dites, alors attention, ça fait bœuf même. Hein. Ben, il s'appelle Sibawai. C'est imprononçable. Hein. Sibawai, ce n'est pas un arabe, c'est un persan. Donc c'est un persan qui est considéré par les arabes comme le premier qui a écrit le plus grand livre de grammaire. Son livre est tellement important que dans une réception, si vous évoquez le livre de Sibawai, mine de rien, vous dites le livre. Vous ne précisez pas. Dans toute l'histoire de la civilisation pendant 1000 ans, il y a eu des centaines de milliers de livres qui ont été publiés avec des titres plus ou moins sophistiqués. Quand vous parlez du livre, tout le monde sait normalement, dans une réception où les gens sont cultivés, qu'il s'agit du livre de grammaire écrit au 8e siècle par Sibawai d'origine persane. C'est comme ça. Donc il y a une codification. Oui. Bien. Ensuite, on va étudier bien sûr le corpus religieux, le Coran et le Hadith. C'est quoi cette étude? C'est l'exégèse, pour comprendre, parce que les paroles de Dieu sont hermétiques. C'est connu. Et puis c'est sujet à interprétations diverses. C'est connu. Et donc vont intervenir des sensibilités. Vont intervenir, dirons-nous aujourd'hui, nous sommes dans une salle de gens raisonnables, des intérêts de groupe. Ça, il ne faut pas le dire, devant les musulmans. Devant certains musulmans. Des intérêts de groupe. Des intérêts de couche sociale. Ou alors même des compréhensions diverses. Que sais-je, toujours est-il qu'il fallait l'exégèse. Et puis il fallait aussi le hadith, ce sont les paroles du prophète. Elles vont servir comme des actes de jurisprudence dans la société. Parce qu'il fallait gérer la société post-Mahomet. Et quand il y avait des conflits sur des problèmes de la vie de tous les jours, tout à fait prosaïques, il fallait savoir si on pouvait légiférer selon la norme de la nouvelle religion. Cette norme, quand elle n'est pas donnée par le Coran, parce qu'il ne dit pas tout, Dieu ne dit pas tout, c'est donné par une parole éventuellement du prophète parce qu'il a vécu la même situation de jurisprudence. Et alors les paroles du prophète ne sont pas sacrées. Ça, les musulmans le disent. Autant les paroles de Dieu sont sacrées, mais les paroles du prophète ne sont pas sacrées. Et ensuite, on n'est pas obligé de prendre la parole du prophète pour argent comptant pour l'appliquer pour une situation du Xe siècle. À condition qu'on est sûr, sauf si on est vraiment sûr, qu'il a dit ça dans un contexte absolument semblable. Donc se pose le problème de l'authentification de ces paroles aussi. D'abord, elles ne sont pas sacrées, mais il faut les authentifier. Donc il faut introduire des critères. Bref, on a inventé une science. La science de l'authentification des paroles des prophètes. Eh oui. C'est-à-dire qu'on a inventé une science tout à fait objective, selon les normes de l'époque. C'est une science objective qui étudie un objet qui n'est pas scientifique. Alors quand je dis ça, les gens se disent, mais comment on peut faire de la science sur des objets non scientifiques? Oui, précisément. C'est même la question la plus importante. Quand une communauté arrive à créer ce qu'on appelle des critères dits scientifiques pour étudier un objet non scientifique, ça veut dire que là, il y a un esprit quand même de rigueur, qu'on appellera plus tard scientifique, qui commence à se développer. Mais pendant longtemps, on a cru que cet esprit scientifique n'allait naître que lorsqu'on aura traduit les textes grecs, parce qu'ils représentaient la rationalité, la rigueur, la science. Eh bien, voilà une erreur qu'il faut corriger maintenant. Ça, c'est une image des orientalistes, qui image héritée de la période humaniste de la Renaissance européenne, où on considérait que le rationalisme et la rigueur et la démarche scientifique ne peut provenir que de la tradition grecque. Et du coup, elle ne peut provenir ni des Chinois, qui ne sont que des techniciens, ni des Indiens, qui ne sont que des algorithmiciens, ni a fortiori des Arabes, parce que là, on avait une image négative de l'islam pendant le Moyen-Âge européen. Et là, il faut redresser complètement. Il y a eu une rationalité qui n'est pas grecque. Et comme j'insiste beaucoup, parce que nous sommes, jusqu'à maintenant, en 2008, imbibés de l'image de la rationalité grecque qui est unique. Elle a existé, personne ne la conteste, puisque ceux qui vont la développer, ce sont les Arabes et les musulmans précisément. Sinon, elle était en train de périr, comme vous le savez. 4e siècle, la mort de la pensée grecque, c'est 4e, 5e, 6e, 7e siècle. Il ne restait que la logique et quelques petits livres d'Aristote, comme les Topiques, qui étaient utilisés par les chrétiens d'Orient, minoritaires, pour se défendre contre leurs frères chrétiens majoritaires de Byzance qui représentaient l'orthodoxie. Et paradoxalement, ils vont se protéger en assimilant les techniques de débat et de polémique enseignées par Aristote, en particulier dans les topiques, et surtout en apprenant la rationalité scientifique produite par les païens, bien sûr. Et ce sont des théologiens chrétiens qui ont sauvé la pensée rationnelle païenne grecque. Et ça, nous le savons, c'est absolument incontesté, hein, à des degrés divers, bien sûr. Et les musulmans vont arriver, ils vont prendre tout ça. Ils vont considérer que c'est bon, bien sûr. Il va y avoir de la polémique. Il y a des musulmans qui vont dire non, on n'est pas d'accord. Que les païens ne peuvent pas penser, ne peuvent pas avoir une pensée meilleure que celle des musulmans. Parce qu'ils sont païens, automatiquement. Et donc, il va y avoir des débats très, très sérieux. Mais ces débats n'ont pas empêché le développement impétueux de la rationalité grecque dans l'espace musulman. Et donc, on peut considérer, nous sommes à Poitiers aujourd'hui, et c'est très important, que c'est la civilisation de l'islam qui a sauvé la rationalité grecque. Ce n'est pas l'Empire romain. Premières institutions d'enseignement en arabe. Bibliothèque califale et princière. Et le phénomène, hôpitaux d'État aussi, construits d'abord à Bagdad, puis dans d'autres villes. Et enfin, le phénomène de traduction qui ne commence qu'au dernier tiers du 8e siècle. Je ne sais pas si vous imaginez, la civilisation de l'islam ne commence vers 632, et ce n'est que vers 775 qu'on daterait la première traduction d'une langue étrangère vers l'arabe d'un texte scientifique. Et d'ailleurs, ce ne sera pas un texte grec, contrairement à ce qu'on a pensé pendant longtemps. C'est un texte indien, par le hasard vraiment des cadeaux. Donc un jour, le calife Al-Mansour, qui a régné de 754 à 775, qui a fondé Bagdad en 762, reçoit une délégation indienne. Et dans la délégation indienne, il y avait des tas de personnalités qui lui ont offert des cadeaux, je suppose. Et puis parmi les cadeaux, on rapporte qu'on lui a offert un petit livre. Et du haut de sa hauteur et de sa clairvoyance, il y a un peu de légende aussi, bien sûr, forcément. Du haut de sa clairvoyance, et de bon, alors il a considéré que l'un des meilleurs cadeaux, c'était le petit livre. Il a ordonné immédiatement de traduire ce livre du sanskrit à l'arabe. Et c'est ce livre qui va être à la base des premiers travaux d'astronomie écrits en arabe. Et effectivement, nous avons confirmation d'une partie de cette légende, qui n'est pas une légende, parce que les confirmations sont données par les scientifiques eux-mêmes, et surtout par le phénomène qui va se développer, c'est que l'astronomie dite arabe, écrite en arabe, va se développer d'abord dans le sillage d'une tradition indienne, avant que n'apparaisse la tradition grecque, qui va être le produit de traductions d'ouvrages grecs qui vont se faire à partir du début du 9e siècle, fin 8e, début du 9e. Et donc, la tradition indienne en astronomie, et en mathématiques d'ailleurs, en calcul, va avoir une avance objective par rapport aux Grecs. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça va créer deux orientations de l'astronomie, deux orientations du calcul. Et donc ça va être une chance pour la science et pour l'humanité, parce que comme ces deux orientations vont être dans un rapport de force où aucune ne pouvait détruire l'autre et effacer l'autre, il va y avoir toute une période de juxtaposition de ces savoirs. Et à un moment donné, ça va aboutir, fatalement, je dirais, à une synthèse des deux. Et donc, il n'y a pas eu de perte d'information. Donc, grâce à cette chronologie seulement, et à d'autres considérations, bien sûr, la tradition scientifique de l'islam va récupérer le maximum d'éléments de différentes traditions. Elle ne va pas éliminer en faveur de telle ou telle tradition. Ce n'est pas par intelligence, c'est par nécessité. Ils avaient besoin de tout. On peut même dire méchamment, ils avaient besoin de tout, de ce qui est des pépites d'or, de ce qui est, comme eux ils disent, des crottes de chèvre. Les deux en ont besoin. Pourquoi ? Parce que les Arabes étaient ignorants. Et quand on est ignorant en science, eh bien on prend tout. Ce qui est des crottes de chèvre ou bien des pépites d'or. Tout est bon pour construire la science. Ces termes sont dits par des savants. Hein, les crottes de chèvre et pépites d'or. Je ne me permettrai pas d'inventer quand même. Alors, voici un manuscrit syriaque. Les Syriaques mériteraient une conférence, plusieurs conférences, bien sûr. Les Syriaques sont des habitants du croissant fertile et qui avaient une langue qui était de la même famille que l'arabe, que l'hébreu, dont l'origine est l'araméen. D'ailleurs, l'écriture est à peu près la même, ceux qui connaissent l'arabe. Hein, c'est, mes étudiants, il y a 3 jours, j'étais à Alger, je leur ai montré cette photo, ils croyaient que c'était de l'arabe. C'est de droite à gauche, ça ressemble un peu, bon, c'est la même famille. Voici un texte d'astronomie indienne. On ne sait pas si c'est ce texte-là d'Aryabhatta du 5e siècle, du 6e siècle, qui a été traduit en arabe. Mais toujours est-il que c'est la même mathématique produite par Aryabhatta, par Brahmagupta, par d'autres, qui va être traduite partiellement, d'ailleurs, partiellement, à partir de la fin du 8e siècle. Et les traductions vont se prolonger jusqu'à la fin du 9e siècle. Bien. Voici une des conséquences, d'ailleurs, de traduction d'ouvrages indiens. Eh bien, c'est la circulation, la diffusion et l'internationalisation de la numération indienne. Ça, c'est la numération indienne, décimale positionnelle, de 1 jusqu'à 9 avec le 0. Ça, c'est l'écriture arabe d'Orient, ça c'est l'écriture arabe d'Occident, c'est-à-dire du Maghreb et de l'Espagne. Et vous voyez, à part ces deux-là, ça c'est l'écriture que je trouve dans les manuscrits du XIIe siècle. Hein, XIIe siècle, au Maghreb, pas en Orient, jamais. Ça, vous ne trouverez jamais ça en Orient, c'est en Occident, Maghreb, Espagne. Eh bien, XIIe siècle, remarquez, le XIIe siècle, ça, tout ça, c'est comme ce que nous écrivons aujourd'hui. D'accord ? Sauf ces deux-là, parce qu'ils ont été transformés par la pratique européenne. Alors vous connaissez maintenant l'histoire, hein, je ne vais pas la répéter. Les deux sont d'origine indienne, sauf que les pratiques de deux régions d'un empire monde a fait qu'il y a eu des différenciations. On s'étonne d'ailleurs qu'il n'y ait pas eu que qu'il n'y ait eu que trois, que deux types d'écriture. Il pouvait y avoir 3 types, 5 types d'écriture de la même numération. Après tout, nous avons des dizaines d'écritures de la langue arabe en fonction des régions et qui font la calligraphie arabe. Voici une page de d'un livre de Galien, donc traduit en arabe. Ça, c'est un recueil des épîtres de Galien, de son livre, je ne sais pas quoi. Bon, c'est écrit ici. Ici, c'est au nom de Dieu clément miséricordieux. Vous remarquerez que les musulmans ne s'empêchaient pas, malgré les interdits, de représenter les figures humaines. Ça, c'est entre parenthèses. Hein. Mais ça, j'ai une conférence complète hein, sur art et science en pays d'islam pour démonter complètement cette hypothèse qui continue à courir que les musulmans n'ont pas pratiqué la peinture anthropomorphique. Mais regardez ça. Et ça, c'est le fin 8e, début hein, 9e. Alors, j'ai une petite conférence de 2 heures où je montre. Je parle peu dans cette conférence, je montre beaucoup d'images.
On peut avoir les deux,
de toute façon. On peut avoir les deux, oui. Et on montre effectivement qu'il ne faut plus regarder cette civilisation à travers ce qu'on vous a raconté jusqu'à maintenant. Ou bien vous êtes capable de lire les textes directement. Par exemple, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être choquer un musulman dans la salle, s'il y a un musulman dans la salle ou une musulmane. Je vous ai parlé tout à l'heure du Coran. Et j'ai fait en sorte que, et vous pouvez m'accuser, comme si effectivement, bon, il y avait un texte sacré, il y a unanimité, c'est la parole de Dieu, et puis ensuite, il va, évidemment, nourrir la pensée, nourrir la gestion de la cité, etc. Gérer la cité. Eh bien, figurez-vous que depuis quelques décennies, on est en train d'étudier à la loupe le texte du Coran. Et des chercheurs très très sérieux, mais ils font ça très discrètement, parce que nous sommes dans un environnement idéologique qui devient dangereux pour les chercheurs. Ils ont constaté qu'il faut distinguer le texte, la révélation jusqu'à la mort du prophète, 632, et quand il est mort, tout ce qui a été révélé au prophète par Dieu a été transmis oralement à des compagnons qui sont des êtres humains, qui n'ont aucune sacralité dans leur vie, qui ont les faiblesses des êtres humains et les qualités bien sûr, mais qui avaient une qualité fantastique, c'est la mémoire, et ils étaient nombreux, mais parce qu'ils étaient nombreux, chacun considérait que sa mémoire était plus fiable que l'autre, et quand on a décidé un jour, pour des raisons politiques, de rassembler pour faire un corpus, pour quand même aller le diffuser dans le monde entier, dans le nouvel empire, eh bien, on a constaté que ces pauvres compagnons qui étaient tous sincères, qui avaient laissé hommes, femmes, enfants, troupeaux, etc., pour suivre le prophète dans sa période d'exil la plus difficile, eh bien, ils n'étaient pas d'accord sur la version définitive du Coran. Et ce n'était pas quelqu'un n'importe qui, hein, ce n'est pas un ennemi de l'islam, ce n'est pas un musulman nouveau converti, ce n'est pas un chrétien, ce sont les premiers musulmans, les plus purs, qui vont être presque des saints après, bien sûr, considérés aujourd'hui comme des saints, les compagnons du prophète, vous imaginez. Moi, un jour, quand mon oncle m'a dit que grâce à une généalogie qu'il a un peu triturée entre nous. Il a trituré sa généalogie, mais lui, c'est l'intellectuel de la montagne. Hein. Il a convaincu ses ouailles, c'est ça qui est important. Mais il n'a pas réussi à me convaincre. Parce que moi, j'étais dans la plaine, je suis professeur, je suis chez les étrangers, donc bon, je n'avais plus la foi de ces triturages. Hein. Il a trituré la généalogie et puis il arrive à démontrer à ses ouailles hein, que nous descendons d'un compagnon du prophète, vous imaginez? Moi, je descendrai d'un compagnon obscur, hein, parce qu'il y a eu des centaines de compagnons, un compagnon obscur du prophète, qui appartenait à une tribu qui s'appelle évidemment les Djebar, parce que je m'appelle Djebar, l'Abdel Djebar. Bon. Eh bien, c'est fantastique. Moi, normalement, hein, si mon état était constitué normalement, je devrais être décoré, je devrais être tout. Je suis descendant d'un compagnon des prophètes. Bon, personne ne croit. C'est dommage. Oui, parce que sinon, je n'aurais pas à me décarcasser chaque fois. Je suis toujours dans le TGV, en train d'aller faire des conférences. Alors, donc, je disais que l'histoire du Coran est déjà... une histoire dont la complexité révèle aussi la complexité de toute cette civilisation lorsqu'on parlera uniquement des choses profanes. Déjà, le sacré qui normalement n'a pas de complexité, il est là, il vient de Dieu. Eh bien, il a une complexité telle que ça nous autorise à ne plus croire ce que l'on dit ou ce qu'on a écrit sur l'histoire profane de cette civilisation, qui normalement est beaucoup plus simple, puisqu'elle est triturée par les êtres humains dans la cité, dans le cadre de rapports sociaux. Si ça vous intéresse l'histoire du Coran, comment on l'a écrite, je peux vous donner des références. Hein. Voici une page de la Bible des mathématiques. C'est les éléments d'Euclide. Alors les éléments d'Euclide vont être traduits à partir de la fin du 8e siècle. Il va y avoir trois traductions, au moins. Et jusqu'à aujourd'hui, des chercheurs comme moi, j'ai écrit déjà trois articles. Vous imaginez, il faut bien vivre. Hein. J'ai écrit trois articles pour savoir si les textes qui circulent jusqu'à aujourd'hui... Vous vous en fichez, je sais. Moi aussi, s'il n'y avait pas la misère des salaires des professeurs, je n'aurais pas fait ça. Si les versions des théorèmes d'Euclide qui nous sont parvenus dans la traduction latine faite au XIIe siècle par Gérard de Crémone, si c'est des passages de la version numéro 1, qui est introuvable jusqu'à maintenant, de l'époque d'Al-Mansour, si c'est la numéro 2 d'Al-Hajjaj ibn Yusuf, dédiée à Harun al-Rachid, qui a régné de 785 à 809. Si c'est la version 3, améliorée bien sûr, du même auteur Hajjaj, dédié au calife al-Ma'moun, qui a régné de 813 à 833. Et si ce n'est pas la quatrième, qui serait la meilleure, parce qu'en plus elle a été non seulement traduite par un très grand traducteur qui est chrétien, qui s'appelle Ishaq ibn Hunayn, mais révisée par le plus grand mathématicien du 9e siècle, qui lui est un païen, vous voyez le cosmopolitisme, le multiconfessionnalisme, qui s'appelle Thabit ibn Qurra. Est-ce que ce n'est pas la quatrième version, révisée par Thabit ibn Qurra, qui en fait a été traduite par Gérard de Crémone, qui n'en savait rien? Bien sûr, voilà. Ben, ça, c'est notre passion, hein, c'est notre gagne-pain. Mais ça ne permet pas d'arrondir les mois. Hein. Ah non, ça permet juste d'ajouter qu'à la fin, on a fait quatre articles, et pour pouvoir avoir éventuellement une petite promotion. C'est-à-dire, travailler plus pour gagner plus, quoi. Vous avez compris? Oh, pardon. En fait, nous, on l'avait inventé avant. Mais on n'est pas devenus des gens très importants. Enfin, il nous manque un peu de technique. Voici la traduction arabe, justement, parce que j'authentifie mon discours quand même. Ça, c'est la quatrième version, traduite par Ishaq ibn Hunayn. C'est marqué ici, mesdames et messieurs, s'il y a un arabisant ici, il peut vérifier. Révisé ici par Thabit ibn Qurra le Sabéen, c'est marqué ici. Et la copie a été réalisée en 343 de l'Égir, c'est-à-dire vers 950 de l'ère chrétienne. C'est la plus ancienne au monde. Voilà. Et elle est aujourd'hui dans une bibliothèque à Mashhad, en Iran. Alors pour y accéder, j'ai eu le privilège de toucher le manuscrit. Cet été, j'étais invité. J'étais invité pour aller faire une formation des maîtres en Iran. Ah, ça vous étonne, hein? Vous n'avez de l'Iran que l'image d'une petite centrale nucléaire. Hein. Et non, il y a des profs comme vous. Puis il y a des profs bons et des profs mauvais. Et comme il y a des profs mauvais, le ministère a dit peut-être qu'on peut les rendre bons. Alors, je suis allé pour conseiller le ministère de l'Éducation pour introduire, je les ai convaincus, l'histoire des sciences. Et j'ai fait de la formation. Et alors, pour me récompenser, ils m'ont payé l'avion et je suis allé à la Mecque des Iraniens, la deuxième Mecque. C'est Mashhad, c'est là où est enterré le 12e imam. Ah oui. Et là, donc, il y a une bibliothèque très très importante. Et elle est à quelques dizaines de kilomètres de la frontière d'Afghanistan, hein, donc c'est loin. Et j'en ai profité quand même, parce que je leur ai dit, puisque je suis à Mashhad, est-ce que je peux avoir le privilège quand même d'aller rendre visite à mon maître? M'a dit, vous avez un maître iranien? Parce qu'ils sont fiers de dire quand même un étranger, même musulman, mais moi je suis orthodoxe, eux ils sont chiites. Donc un orthodoxe qui a un maître en Iran, j'ai dit oui, j'ai un maître. Eux, ils pensaient que c'était un marabout. Et je leur ai dit, ça, il habite à Nishapur. Et comme ils sont très cultivés, ils ont compris. Ils ont loué un taxi jaune et on est parti, 100 et quelques kilomètres, et on est arrivé. Et j'ai récité un hommage, qui est un poème, d'ailleurs écrit par lui-même, comme ça c'est plus économique, un hommage au plus grand mathématicien, un des plus grands mathématiciens de tous les temps, qui s'appelle Omar Khayyam. Et j'ai eu le privilège de le saluer. Et d'ailleurs, j'ai pas de photo, c'est dommage, mais j'ai pris une photo où les Iraniens ont compris quand même que l'apport de ce grand mathématicien, c'est d'avoir résolu les équations du troisième degré par les techniques géométriques liées aux coniques d'Apollonius, troisième siècle avant Jésus-Christ. Mais ils lui ont construit un mausolée uniquement où on a utilisé que des formes de courbes du second degré qui sont des paraboles et des hyperboles. Il faut le faire, hein? Dans une ville perdue près de la frontière afghane. Voilà. Bien, voici Archimède le Grand, le livre de la mesure du cercle, traduction en arabe. Évidemment, ce phénomène de traduction, surtout des ouvrages grecs, les Arabes disent, les musulmans disent de manière générale, nous avons traduit 80% de nos traductions sont des ouvrages grecs, ou 85%. Le reste, c'est indien, c'est nabatéen, c'est persan. Mais la plus grande part des traductions dans toutes les disciplines scientifiques, sauf discipline littéraire et poétique, ça ne les a pas intéressés, la production grecque. Bien, pour des raisons idéologiques et culturelles que vous devinez. Les Arabes considéraient que leur littérature était meilleure, leur poésie était meilleure. Eh bien, tout cela va être mis à la disposition des jeunes scientifiques en herbe. Et donc de tous ceux qui vont produire de la science. Comment? Comme nous sommes dans un empire monde, et là voici aussi une innovation qui n'est pas propre à l'intelligence humaine, c'est par nécessité. Comme c'est l'empire monde, comme l'islam maintenant va être exprimé en arabe, que les sciences vont être exprimées en arabe, même si la littérature, etc., va être exprimée avec les langues des autres peuples, ça n'a pas changé, c'est-à-dire que les cultures vont rester locales ou régionales, mais la science va être internationale et universelle, donc avec un seul support qui est la langue arabe, eh bien, ce support doit avoir un autre support pour qu'il puisse circuler, pour que les gens accèdent, ayant maîtrisé la langue arabe, il faut qu'ils accèdent à la matière, eh bien, c'est le papier. Donc le papier n'est pas une invention musulmane, c'est une invention chinoise, les musulmans sont les premiers à le dire, mais c'est dans l'empire musulman qu'il va acquérir sa dimension internationale et surtout sa dimension manufacturière, industrielle. Et donc là, c'est une image du processus, c'est une miniature iranienne, hein, très belle, du processus imaginé par un peintre de la production du papier. Là, ça va de la culture, du coton et du chanvre, à la production des rames de papier. Le mot rame est un mot arabe, hein, qui veut dire tout simplement paquet, la rame de papier. À la vente du papier probablement ici et jusqu'à l'utilisation du papier pour l'enseignement des sciences, enfin pour la transmission du savoir, avec un professeur qui dicte à un très bon élève et vous remarquerez quelque chose de superbe qui n'existe plus malheureusement, hein. C'est quelqu'un qui est payé par la fonction publique pour uniquement ventiler le professeur. Ça, c'est dommage, hein. On a perdu des choses. À la limite, si on avait ça, on parlerait pas beaucoup de salaire, mais enfin, on n'a même pas ces avantages.